France Musique.
J'attendrai.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, premier épisode, une enfance en Orient. Chanson de Solveig, chantée en 1929 par Nino Vallin, Edouard Grieg, extrait bien sûr de Peer Gynt. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Lionel.
Ce qu'on vient d'entendre là, cette chanson de Solveig, c'est sans doute ce qui pouvait s'écouter, se chantonner aussi peut-être, je sais pas ce qu'on veut dire, dans la rue, en France et ailleurs, dans les années 30.
C'est un premier souvenir très particulier parce que mon père, qui avait un violon, mais qui n'en jouait, je n'ai jamais entendu en jouer, enfin je l'ai même jamais vu sortir d'une boîte quelconque, et qui certainement avait un héritage musical assez réel, assez profond, assez implanté, puisqu'il avait un grand-père qui avait été violoniste à la Société des Conservatoires il y a longtemps. Et j'avais entendu à la radio la chanson de Solveig, et certainement par Ninon Vallin, parce que on en retrouve immédiatement le timbre, la façon de chanter, le merveilleux mélisme, enfin, par lequel elle termine sa strophe. Et pour moi, ignorant de musique, et dans un pays où il n'y avait aucune chance, enfin, de l'apprendre comme ça convient, comme je l'aurais fait si j'avais été en France, ce chant qu'on entendait parfois à la radio apportait comme une espèce de clé immédiate d'un pays qui est promis, qu'on ne peut pas aborder tout de suite, mais enfin qui est plein de quantités de richesses, dont on est sûr, enfin, que quelque part on les possède déjà, on y a un certain accès. Et donc, ce chant, qui lui aussi parle d'attente, parle de séparation, parle de rester au pays et de fidélité, tout cela représentait pour moi quelque chose d'extraordinairement émouvant dans la situation isolée, un petit peu à part, où nous nous trouvions comme cela sur la côte orientale de la Turquie. Et je me rappelle, pour une fois, avoir demandé à mon père, tellement j'avais été ému par ce chant, ce que c'était. Et il m'a dit la chanson de Solveig. Alors, d'où il savait cela, je n'en sais rien. Quel effet ça m'a fait? Eh bien, simplement l'effet que, voilà, que la porte était ouverte et que forcément quelque chose allait s'en suivre.
André, ça fait bien des années que je veux faire cette émission avec vous. Les circonstances font que c'est pas toujours facile. C'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de vie. Parce qu'une vie, vous en avez eu une sacrée quand même, avec beaucoup de rencontres, avec beaucoup de musique aussi, de l'enseignement, du travail, et puis toute la pensée que vous allez nous transmettre aussi, la sédimentation de souvenirs que ça nous donne. Aujourd'hui, on va donc être concentré sur le début, donc l'enfance, une enfance dont on comprend bien qu'elle se fait en Orient, en Turquie, spécifiquement à Smyrne, où vous êtes né. Qu'est-ce qui fait? Alors d'abord, avant qu'on parle vraiment de vous, de votre famille dans ce lieu, qu'est-ce qu'était la Turquie à cette époque-là?
Qu'est-ce qu'était la Turquie à cette époque-là? C'était une nouvelle république laïque, très autoritaire et très organisée. Atatürk, qui était certainement un génie politique, ne pouvait construire que d'abord sur les ruines de la Grèce haïe, enfin qui était en quelque sorte la rivale historique dans ce coin d'Orient, surtout à Smyrne où je suis né, parce que Smyrne c'est quand même au départ l'Ionie, c'est-à-dire ça a été fondé en tant que colonie grecque, enfin, et bien avant que les Turcs ne soient arrivés, eh bien, d'Asie centrale, eh bien, les Grecs étaient déjà installés sur tout le littoral de la mer Égée, bien entendu. Bon, mais une république pure et dure, qui s'est donné un nouvel alphabet, qui s'est laïcisé, qui a essayé de trouver un enseignement moderne. Et tout cela ne pouvait évidemment se faire que sur les ruines de la Turquie qui avait précédé, et les vieux califats, et le vieux sultan, et tout un vieux système, enfin, qui avait fait de la Turquie l'homme malade de l'Europe, enfin, depuis bien longtemps. Et en vérité, moi, lorsque je suis né à Smyrne en 1930, il y avait 8 ans que Smyrne, enjeu absurde d'un combat de reconquête par les Grecs sortis vainqueurs de la guerre de 14-18 et ambitionnant de reprendre après Smyrne, Byzance, de reconstituer l'empire de Constantin. Eh bien, en face, ils avaient quand même trouvé la volonté d'Atatürk de dire non. Les armées grecques, dans leur folie, ont pu aller pratiquement jusqu'à Ankara, mais enfin absolument épuisées, sans vivre, sans secours, sans support logistique d'aucune sorte. Eh bien, il n'y a plus qu'à leur tomber dessus, à les faire refluer jusqu'à Smyrne, épuisés à pied, ils y ont été massacrés, et voilà, et la ville incendiée, et ce qui restait d'un vieil Orient jeté à l'eau dans les flammes, voilà. Bon. Mon père était ingénieur de travaux publics, et il est parti pour l'Orient, pas du tout par Van der Lust, mais enfin par besoin de quitter l'horizon de la France. Et mon Dieu, en débarquant à Salonique, il a rencontré ma mère, qui était une fille de consul de France, et de consul de France depuis 2 générations ou 3 générations. Eux étaient des Vernazza, c'est-à-dire d'anciens génois, Vernazza, c'est sur la côte de Ligurie, enfin au Cinque Terre. Et ils étaient un peu italiens, ils étaient un peu grecs, ils étaient donc parfaitement français pour les consulats tels qu'ils se font en Orient. Mais la vieille mère restée au pays a dit « Tu n'y penses pas, épouser cette étrangère !» Elle ne s'était jamais hasardée au sud et à l'est de Paris, capitale. Et ils ont dû attendre 5 ans. Les fiançailles ont été rompues. Et je ne sais pas comment ça s'est rabiboché. Mon père, entre-temps, était allé de Salonique à Smyrne et avait commencé à y construire des chemins de fer. Il était là au moment où il y a eu ce que plus tard, tous les Grecs ont continué à appeler la catastrophe, c'est-à-dire l'incendie, la catastrophe de 22. Il y était, il n'en a jamais dit un mot. D'ailleurs, il n'a jamais dit un mot de quelque chose, de quoi que ce soit. Mais cela veut dire que à Smyrne, lorsque nous étions encore tout petits, mes deux frères et moi, j'en avais un largement mon aîné qui était de 26, moi-même je suis de 30, et j'avais un petit frère qui était de 32. En 34, on nous a gentiment poussé dehors et replié par conséquent en France avec les autres ingénieurs et la plus grande partie du personnel de cette régie. Et mon père désirait beaucoup retourner en Turquie à un autre poste s'il le fallait. Nous avons donc pu repartir pour la Turquie, mais alors à Zonguldak, ce qui est tout à fait inattendu. Mais évidemment, vous levez le sourcil quand je dis Zonguldak. Zonguldak, si je vous dis que c'est le premier port de la mer Noire, à 80 ou 100 kilomètres à l'est de Istanbul, ça ne vous en dira pas beaucoup plus. Et bon, si on regarde vraiment vers le nord et que le regard passe au-dessus de toute la mer Noire, on arrive à Odessa, si vous voulez, c'est le vieux pont de Euxin. La mer Noire avec ses colères, cette mer qui est alimentée par des fleuves, enfin cette mer qui est une espèce de mer d'eau douce. Et Zonguldak, qui était anciennement Héraclée, ou à côté de Héraclée, qui était devenu Héréli, selon l'orthographe moderne, eh bien c'était une mine de charbon avec des ponts transbordeurs, un port minier, et au-dessus un plateau où il y avait, dans une espèce d'exterritorialité, une douzaine de familles essentiellement françaises avec les ingénieurs des mines qui venaient là passer un bout de temps entre la Sarre, le Maroc, enfin, et qui allaient finir leur carrière à Paris et qui avaient de toute façon une destinée française, leurs enfants aussi. Et nous qui étions davantage atypiques parce que comme gosses nous parlions la langue du pays, on l'avait apprise dès le berceau, nous avions une mère qui était née en Orient, qui était née elle dans l'île de Crète, fille de son père Ulysse, il l'avait fait naître un des pays de l'Odyssée, enfin, et l'avait trimballé ensuite à Benghazi, enfin, qui était presque le pays des lotophages. Donc nous avions avec nous tout un parfum d'Odyssée qui nous était tout à fait naturel, et être chamboulé du côté de Zonguldak, bon, ça allait de soi. Et nous nous sommes trouvés dans cette position extraordinairement à part, si vous voulez, de n'être ni turc, ni réellement des Français de France comme les autres, puisque nous n'avions pas de maison de famille en France. Nous n'avions pas de grand-mère ou de vieille tante qui à Noël y accueille, à Noël et pour les vacances d'été, y accueille toute une ribambelle de petits cousins qui se retrouvent là. Enfin, je veux dire, il y a tout un folklore français, tel qu'on l'apprend dans les livres, tel qu'on l'apprend dans La Comtesse de Ségur, où qu'on soit, on lit quand même Les Malheurs de Sophie, ou Les Petites Filles Modèles. Bon, et ce folklore de l'enfance française, nous ne l'avions pas. Nous ne l'avions, que par La Comtesse de Ségur. Nous étions séparés des uns et des autres. Étrangers dans le pays, sans y être totalement étrangers, parce que nous en parlions la langue, et que moi, petit, enfin, je savais même le grec. Le grec est la première langue que j'ai sucée, si je puis dire, le premier sein que j'ai sucée, mais la langue parlée, qu'effectivement, j'ai sucée à la mamelle de ma nourrice, qui s'appelait Paraskevi, ce qui veut dire providence ou préparation, ou encore vendredi, un vendredi femelle, et qui m'a d'abord appris le grec et des chansons grecques. Donc, dans l'oreille, j'avais le grec, j'avais le turc, j'avais le français bien entendu, mais enfin, nous avions nous quelque chose, je ne dirais pas d'oriental, puisque l'Orient aussi allait nous pousser dehors, mais voilà, d'une appartenance de nulle part et dans nulle part. Et ça faisait une situation de première immédiate tribulation, et le peu de musique que je pouvais entendre me mettait ailleurs, dans ce qui serait peut-être davantage un chez-moi un jour.
Alors à l'occasion de cette première émission, dans Tubeuf, on ne va pas écouter beaucoup de musique, entre guillemets, dite classique, parce qu'il y en avait relativement peu encore dans votre vie. En revanche, il y avait la radio, et ce qu'on y entendait à cette époque-là, exemple ceci. Yvonne Printemps chantait cet extrait Trois valses, le film en 1937, inspiré bien sûr de Johann Strauss. Yvonne Printemps, c'est pas seulement ce qu'on pouvait entendre lorsque vous aviez 7 ans, André Tuboeuf, simplement couleur sonore, c'est ce qu'elle représentait aussi.
Ça représentait Paris, parce que en 37 et en 38, nous sommes allés conduire mon frère aîné qui devenait pensionnaire, comme c'est le sort des petits Français nés loin du pays. Ils vont faire leurs études en France s'ils veulent arriver à quelque chose. Bon, nous conduisions donc mon frère Jean à Sainte-Croix de Neuilly, et 37-38, ce sera la saison où les Trois valses triompheront au bout parisien, et mon père et ma mère sont allés au théâtre entendre Yvonne Printemps, et on l'entendait à la radio, et pour moi ça représentait le chant, bien entendu, de toute façon, mais un chant doré, un chant glamour. Je n'avais pas idée de ce que glamour veut dire. Mais enfin, on sentait tout de suite, enfin, le désir d'aimer ça, enfin, et de succomber au charme de ça. Et c'était pour moi une sorte de culture française, typiquement parisienne même, à laquelle je n'avais pas du tout accès. Mais voilà, on entendait aussi ça à la radio assez souvent, parce que ça a été un des tubes de cette époque de l'immédiate avant-guerre. Et ça changeait par rapport à ce qu'on entendait habituellement, c'est-à-dire le tout venant, Tino Rossi, Rina Ketty, des choses que je savais par cœur. Et que, parce que je dois dire que dans l'école où je me suis trouvé sitôt arrivé à Zonguldak, puisque Zonguldak il y avait encore des sœurs, il y avait des franciscaines missionnaires de Marie qui avaient une école, un dispensaire, une petite église, voilà, et j'y ai fait ma première communion, et il y avait une sœur qui m'aimait beaucoup, parce que j'étais curieux, je devais être vif et attentif, enfin, en tout cas aux choses qui m'intéressaient. Et quand elle s'approchait de l'harmonium, enfin, et qu'elle touchait l'harmonium, et qu'elle m'apprenait, voilà, ce qu'il fallait qu'on chante à l'église, qu'on chante au salut, des choses en latin que je sais toujours par cœur. Voilà, visiblement, elle m'a mis, je pense que j'avais par nature une oreille, par nature, et étrangement une espèce de mémoire qui pressent un certain nombre de choses. Et au bout de cette oreille, à la profondeur de cette oreille, elle a trouvé le contact entre l'oreille et la voix, ou entre la voix et l'oreille. Elle m'a fait chanter des choses que je pouvais comprendre et que je pouvais imiter, que je pouvais bien faire. Et ce qu'on entend comme chanson à la radio, enfin à l'époque, c'était extrêmement mélodique et chantant, et c'était des chanteurs avec un peu de voix, mais enfin des chanteurs à voix tout de même. Donc c'était très facile de les imiter. Effectivement, la radio pour nous, c'était Tino Rossi, etc., etc. Et la présence française, c'était cela. Mais Yvonne Printemps, c'était quand même un petit peu à part.
Que chantent les señoritas si brunes, sans lui sur la plaza, la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur, en dépit des montagnes, un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne. J'ai vu toute l'Andalousie, berceau de poésie et d'amour. Grenade, donner la sérénade sous les tours. J'ai quitté le pays de la guitare, mais son doux souvenir à mon âme s'égare. Dans un songe souvent, tandis que mon cœur bat, il me semble entendre tout bas une chanson qui vient de là-bas. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et séguédilles que chantent les señoritas si brunes, quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous les charmilles des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur, en dépit des montagnes, un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne.
Rina Ketty, à la fin des années 30, dansait sombreros et mantilles. C'est un ton en dessous de ce qu'on entendait tout à l'heure avec Yvonne Printemps, mais c'est bien aussi, hein, André
Tourneuf. Oui, mais je vais vous dire quelque chose que je viens de retrouver et de vérifier en vérité. Vous voyez, je deviendrai plus tard passionné, et même, me dit-on, un peu spécialiste d'opéra. Mmh. Mais vous voyez, Carmen et Figaro, c'est une citation d'opéra. Enfin, il y a des Carmens et des Figaro dont les yeux brillent, là, sous les mantilles avec les charmilles. Hein. Et ces personnages d'opéra, je pourrais me dire ultérieurement, quand je les découvrirai en vrai, qu'ils sont nés pour moi, chérie Rina Ketty, comme une espèce de promesse. Mais nous avions une très belle maison à Zonguldak, d'où on voyait enfin toute la mer, un promontoire, il y avait des tempêtes horribles pendant l'automne, des vents qui soufflaient depuis le Caucase, je ne sais pas, et depuis l'Anatolie aussi de partout, et des barcasses qui se fracassaient pendant ces nuits d'automne contre les rochers de la rade, enfin je veux dire, c'était un beau paysage sauvage et lumineux en même temps, et une très belle maison avec un jardin où il y avait des légumes, des fruits, enfin des fruits dont les odeurs, enfin les saveurs me poursuivent toujours, et une piste qui était une piste de danse. Et je crois en vérité, si on l'avait aménagé en piste de danse, ce n'était pas pour y donner des balles, pas du tout. Je crois qu'il y a eu une fois une surprise partie. Maman a donné une fois une surprise partie. Et on amenait des disques et fait des lanternes japonaises, mais c'était pour donner une stabilité au sol devant la maison, et pour l'empêcher de s'en aller à toutes les pluies, en entraînant peut-être aussi la maison. Mais enfin, voilà, Tino Rossi, Rina Ketty, mais surtout, le problème qui sera crucial, c'est que très rapidement, un an après notre arrivée à Zonguldak, les sœurs vont être simplement expulsées par Atatürk. Enfin, c'est-à-dire que cette espèce de présence à la fois française et occidentale en général, qui était symbolisée, enfin, pratiquement dans le monde entier, mais notamment, enfin, dans l'Orient chrétien, par la présence de toutes ces religieuses, de toutes les écoles françaises, ça a été disparu d'un seul coup. Alors, comme il n'était pas encore question de faire partir les ingénieurs français, il a fallu trouver pour tous les gosses une école. Et alors, entre 3 et 9 ans, 3 et 9 ans, 10 ans, tout le monde est là à suivre la même classe, à apprendre une espèce de rudiment valable pour tout le monde, avec des demi-heures différentes pour les uns et pour les autres, selon qu'ils étaient les tout petits ou les relativement moins petits. Alors, il y a eu évidemment des... Je veux dire, ça a été pour moi, je veux dire, une chose absolument merveilleuse. D'abord parce que être enfant dans un jardin magique, enfin, qui est un jardin, enfin, en terrasse, enfin, avec des choses qui descendent, une espèce d'escarpement qui est ménagé en terrasse et qui va descendre vers le port et vers la mer et de l'autre côté vers les promontoires, et attenant à ce jardin, ne faisant qu'un avec ce jardin, une forêt, une véritable forêt avec, et voilà, l'enfance heureuse avec une balançoire en bas que papa nous avait aménagé, qu'on était seul à avoir, un kiosque dans le jardin qui était comme le kiosque d'en bas à Zonguldak où il y avait de temps en temps une musique municipale qui ne chantait pas du tout du Tannhäuser comme à Venise à l'époque, mais plutôt des choses patriotiques turques qui sont devenues assez musclé sur les dernières années. Et j'ai gardé de tout ça un souvenir absolument radieux, avec toutes les difficultés que ça a représenté et toute l'enfance absurde que ça a représenté, impréparée, avançant n'importe comment, dans sa simple magie, tout de même.
On se rend bien compte, vous nous le dites bien, André, enfance heureuse, mais il y a une inquiétude là-dedans, il y a aussi la guerre qui est au bout finalement de ce parcours-là, sinon au bout en tout cas, l'un de ces épisodes. On va écouter ici quelque chose qui va nous rappeler une guerre antérieure, mais à laquelle on arrivera à raccrocher.
Attention les hommes, pour chanter auprès de ma blonde qui fait bon dormir, nous y sommes.
Oui, oui, oui.
Alors, en avant. Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde, ils viennent faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Eh ben, moi, si j'étais auprès de ma blonde, je dormirais point, je sais.
Oh, la ferme, Pitou, tu nous rends deuxième couplet. La coille la tourterelle et la jolie perdrix.
La coille la tourterelle et la jolie perdrix.
Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir.
Dire que je dormirai point auprès de ma blonde, moi, j'y dirai ma petite chatte en sucre, ma petite croûte en chocolat, je vais te...
Ah, la pape, puis tout, tu nous bassines. Troisième couplet. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Pour moi, ne chante guère, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Dire qu'auprès de ma blonde, moi, je dormirai pas. Je y ferai des risettes, je y ferai des chatouilles, je y ferai des...
Nom de Dieu, Pitou, si vous vous taisez pas, je vous colle 4 jours, celle de police.
Mais Capral,
c'est bon, vous les avez, vos 4 jours.
Alors, je dirai plus rien.
Et c'est pas malheureux, la barbe, Pitou, tu nous canules, quatrième couplet. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Que donneriez-vous, belle, pour avoir votre ami? Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
C'était Aristide Bruand et ses troupes qu'on entendait ici dans Auprès de ma blonde, vieille chanson française qu'on chantait encore dans les tranchées, qu'on chantait encore à la veille de cette guerre à laquelle vous allez assister à la fin des années 30, André Tuboeuf.
Eh bien oui, mais Auprès de ma blonde, enfin, c'est pour moi un souvenir folklorisant immédiat. Vous savez, j'ai grandi sans entendre de chansons du pays, parce que je ne vois pas comment j'y aurais eu accès. Enfin, nous n'avions accès que par la radio, et c'est pas ça qu'elle aurait diffusé. Mais au moment de la guerre, il y a eu cette drôle de guerre installée de septembre 39 jusqu'à pratiquement avril et même début mai 40. La drôle de guerre où ça ne bougeait pas dans les tranchées. Mais il y avait un communiqué pour dire précisément que rien ne bougeait, mais un communiqué de guerre. Et le communiqué était précédé par « Auprès de ma blonde », pas du tout chanté par Aristide Bruand, qui n'est quand même pas à entendre par toutes les oreilles. C'était une voix de femme, je ne sais plus du tout laquelle, mais enfin pour moi c'était à la fois, voilà, on se bat pour la France, qu'est-ce qui se passe, c'est notre patrie, elle est menacée par quelque chose. Ce n'est pas que le sentiment de la guerre nous ait été très très étranger ou très éloigné à nous qui étions en Orient, mais enfin voilà, l'idée que la France était en guerre, enfin forcément me touchait étrangement, et pour nous en plus ça nous a changé complètement notre situation, parce que nous n'étions plus du tout... la France ne s'intéressait plus du tout à nous, au coin où nous étions. Et en 40, au printemps 40, à Pâques 40, voilà, on a été déménagés, quoi. Alors on a dû dire adieu à cette belle maison, à ce jardin, à cette forêt, à ces baignades où on partait tous ensemble, enfin sur le remorqueur de la société, voilà. C'est d'une certaine façon, pour moi, l'enfance s'est arrêtée ce jour-là par la force des choses. Parce que quand l'enfant est dans son propre jardin, il y a une espèce d'extéritorialité de fait, que ce soit la Patagonie, que ce soit la côte de la mer Noire, c'est l'enfance et c'est la maison et c'est le jardin et c'est la famille. Mais ensuite, on se trouve replié en ville, dans la grande ville, avec en face de soi de vraies écoles, des problèmes de logement, où est-ce qu'on va se mettre? Où est-ce que papa va retrouver une situation? Et il a mis un an à en retrouver une, en vérité, et pas en Turquie, mais à Alep. Et on a donc eu une grande année de Turquie en véritable tribulation, c'est-à-dire couchant en partie chez la vieille tante Adèle, qui était la belle-sœur de mon grand-père, et qui vivait à Istanbul avec une de ses filles, qui avait un grand appartement, et qui était glorieuse et en ruine, quoi, comme le Vieil Orient, symbole même d'un Vieil Orient. Il y avait ma grand-mère qui vivait en bas de la rue des Postes, chez sa vieille amie Madame Lachaise, qui m'apprenait elle aussi, une fois que je serai à Istanbul, des chansons du pays. Elle m'apprendra, parce que c'était déjà la guerre, « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Elle, Stambouliotte, qui m'apprenait ce que c'est que l'Alsace et la Lorraine, et qui chantait « Le rêve passe ». Je veux dire, tout cette espèce de folklore, enfin, que tout le monde aurait eu, je l'ai eu là, par ces vieilles dames de Stamboul, qui me semblaient porteuses de toute la mémoire du monde. Mais enfin, en même temps, il fallait bien, là, puisque j'étais à la grande ville et qu'il y avait un lycée français, que je tâche de faire quand même des études comme tout le monde, sorti quand même de la salle du consulat où je venais de passer pratiquement trois saisons. Mais il n'y avait pas moyen de me faire entrer au lycée français du Galatasaray, parce que comme je n'avais encore été nulle part, dans aucune école réelle, on voulait me faire entrer au plus bas, c'est-à-dire en 12e ou en 11e, et maman pensait que j'étais au niveau 6e. Et évidemment, il n'y avait aucun partage, aucun pazarlik, aucun marchandage possible pour couper la poire en deux. Alors, on m'a mis à Saint-Louis des Français, où était déjà mon frère, qui était lui depuis septembre. On ne l'avait évidemment pas, avec la guerre, renvoyé à Neuilly. On pensait que la guerre allait durer 6 mois, hein, quand même. Bon, alors on m'a mis moi aussi dans cette école qui était en même temps séminaire et qui faisait un bon travail pour les petits Français. Mais comme je n'étais d'âge pour rien et que je n'étais officiel pour rien et nulle part, on m'y a mis clandestin. C'est-à-dire que quand l'inspecteur turc arrivait, on me cachait dans un placard à balai. Ce n'était absolument pas traumatisant, je dois le dire absolument. Mais enfin, ça n'ajoute pas au sentiment de sécurité qu'on a. Et qu'on a face à quoi, en vérité? On ne l'a pas en face des études en disant il va falloir que je fasse du latin et que j'arrive à Pâques et il va falloir que je rattrape ce que les autres ont fait, Rosa la rose, depuis le début de le sixième. C'est pas un problème. On ne veut pas rattraper l'histoire, rattraper le français, on en sait autant que les autres. Ou on l'a appris par brindille, on n'en sait rien, mais enfin on en sait autant que les autres. C'est pas en face des études qu'on est inconfortable, c'est en face des autres, en face des élèves. Qui d'une certaine manière sont là tous ensemble depuis 6 mois, qui forment une corporation, qui a déjà ses rites, ses mots de passe, et on débarque là. Et ça, c'était terriblement accentué par l'inspecteur, le placard à balai. Mais j'y ai appris quelque chose qui, je crois, ne m'a jamais quitté depuis, c'est-à-dire une adaptabilité réelle, simplement parce qu'on sait qu'aucune circonstance n'est jamais durable, n'est jamais garantie, et qu'on va être obligé de s'en arranger.
La célèbre humoresque d'Antonine Dvorak, je dis la célèbre parce qu'il y en a d'autres, mais celle-là, on l'a évidemment tous dans l'oreille. Arthur Grumio avec István Haïdou, le premier au violon, le second au piano, je dis qu'on l'a tout en tête. C'est une ritournelle qui reste très longtemps, hein, André Tuboeuf, vous
l'avez entendu. Ah oui, hein. Oui, parce que je l'ai entendu à une audition d'élèves. Et je me suis dit, mon Dieu, si je pouvais un jour... C'était au piano seulement, c'était transcrit pour piano. C'était des élèves pianistes. Je me disais, si un jour je... Ah, il y a des enfants qui jouent de la musique. Et moi, je ne sais pas.
Et il n'y avait pas, si, il y en avait dans la famille, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Il y en avait dans la famille, entre autres, oui, mais... il y avait le, oui, oui, absolument. Et même mon grand-père, j'ai oublié de parler de mon grand-père, qui lui tenait les orgues à Sainte-Clotilde. Ah, donc, oui. nous avons dans le sang quelque chose de tout à fait musicien héréditaire. Du côté de ma mère, il y avait simplement le fait que, comme toutes les jeunes filles nées en Orient et bien élevées, elles avaient été à Corfou, à Salonique, à l'opéra, et qu'elles savaient tout ça. Elles en savaient tous les airs par cœur, elles jouaient ça au piano, elles chantaient.
Mais pas d'enseignement de la musique.
Mais pas de pratique possible, et je dois dire, les enfants, on les oblige en général à faire de la musique et ils protestent, et moi je désirais en faire, et je ne pouvais matériellement, historiquement et géographiquement pas. Bon, et la situation comme ça à Istanbul a continué tout un grand hiver et un printemps, puisque c'est à Pâques simplement que nous avons pu partir vers la Syrie, vers Alep. Mon père y a trouvé enfin une situation. Et entre-temps, il y avait eu quelque chose pour moi, une chose déchirante, déchirante et troublante enfin. C'est-à-dire deux mois d'été à Smyrne. Les classes étant finies, la guerre étant toujours la guerre, et même la guerre ayant été à partir de juin 40 une chose assez redoutable, puisque ça signifiait la mise à genoux de la France, et je revois ma tante Clémentine, la fille de la tante Adèle, la tante Clémentine qui était vieille fille, ou peut-être en un sens vieux garçon, avec des souliers bas, des souliers plats à talons qui sonnaient durement sur le pavé, des cheveux gris courts et un fume-cigarette grand comme elle, patriote comme tous ceux qui avaient perdu leur nationalité par la raison de tous les événements qui ont eu en Orient depuis 18, se retrouvant avec des passeports nansen, enfin, ne sachant plus ce qu'ils étaient. Mais elle était étonnamment polyglotte, elle donnait des leçons de français à l'ambassade de Russie, de russe à l'ambassade d'Italie, d'italien à l'ambassade d'Allemagne et d'allemand à l'ambassade de France. Et disait-elle, elle ne le disait pas tout de suite à ce moment-là, mais faisait du renseignement et recueillait des informations. Elle se considère un peu comme la Jeanne d'Arc du Bosphore. Et je sais, je ne peux pas vous dire que c'est le 18 juin 40. Ce n'est évidemment pas le 18 juin 40, mais si c'est pas le 18 juin, c'est le 19. Le 19, forcément. Qu'on était à table chez elle à midi, elle nous a dit, debout, enfant, le général de Gaulle va parler, chantez la Marseillaise. Bon. Alors, je veux dire que j'ai senti extrêmement fort, enfin, cette fibre patriotique, parce que, en même temps que la radio nous disait que nous étions mis à genoux, une autre radio nous disait qu'il y avait une espèce de sursaut français. Alors voilà, on était très fiers et très excités pour ça, mais ça ne nous a pas rendu la situation beaucoup plus facile. Et en été, on a été à Smyrne, donc, et j'y ai passé 2 mois dans la maison même où je suis né. C'est-à-dire, on avait été recueillis en hôte par les gens chez qui nous avons habité, dans les maisons desquelles nous avons habité un étage pendant ma plus petite enfance, jusqu'en 34, moment de notre première expulsion. Et je dois dire que j'ai revu des vieillards. J'ai revu des vieillards qui étaient la nostalgie et l'indulgence même, et qui se souvenaient de moi quand j'avais été petit, parce que je revenais, ça faisait mon Dieu quoi, 6 ans après, ce qui est énorme. Et tous les souvenirs de ma plus petite enfance ont été absolument recouverts par ceux des mêmes lieux, la même maison, mais avec des modifications, des trottoirs, un aménagement du front de mer, une autre civilisation qui s'était installée, les Français allant à l'Alliance française et allant jouer ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire des jeunes gens désormais? Est-ce qu'ils vont rentrer en France ou est-ce qu'ils vont rejoindre la France libre? Toute une perturbation, enfin, je veux dire, pour mon esprit, considérable. Il fallait choisir, parce que rentrer en France, c'était rentrer dans une France occupée, dans une France qui était devenue Vichy. Donc, enfin, tout ça était, j'avais déjà assez de raisons de me poser la question de mon identité personnelle, telle que j'avais grandi, étranger en Turquie, je dirais étranger même dans ma famille, blond au milieu des bruns, bouclé au milieu des cheveux raides. Et étranger par rapport aux Français du plateau, de Zonguldak, qui avaient des maisons, leur avenir et un passé en France. Mon père qui était parti sans rien emporter, sans que j'aie jamais vu une photo de mes grands-parents, sans un souvenir de famille. Et à cette question d'identité personnelle s'ajoutait, bon, c'est quoi être français ?
Oh, Let's go.
Deux extraits du Messie de Handel, le Monteverdi Choir, les English Baroque Solistes, tous dirigés par John Elliott Gardiner. Très bonne soirée à tous, à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre série consacrée aux mémoires d'André Tuboeuf. Ce sera dimanche prochain, d'Alep, au Mont des Oliviers.
Et pourtant, j'attendrai ton retour.
À réécouter sur francemusique.fr.